On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match, 26e de la saison, 26. On salue les auditeurs de la Drôme, comme vous tous, par ailleurs, qui êtes toujours aussi nombreux à nous écouter entre 18h30 et 20h. Émission 100% interactive à retrouver, vous le savez, via la toute nouvelle application RTL qui réunit tous les podcasts de l'antenne. À 20h, RTL Foot, avec notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Lyon-Montpellier. Dans le flash de 19h, coup d'envoi de Reims-Lens. Et depuis 17h, Paris-Saint-Germain-Nice. Dans un instant, Nicolas Georgerot au Parc des Princes. On fait le match avec durant 30 minutes et en loge VIP, Noël Le Graët. Bonsoir Noël Le Graët.
Bonsoir.
Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, président en exercice, candidat à un quatrième mandat dont l'élection aura lieu le 13 mars prochain. Cette élection vous mettra aux prises avec Frédéric Thirier, ex-patron de la Ligue du Football Professionnel, et Michel Moulin, chef d'entreprise que nous avons déjà reçu tous les deux. Merci en tous les cas d'avoir répondu à notre invitation. Précision, Noël Le Graët, cet entretien a été réalisé mercredi après-midi. Pour vous interroger jusqu'à 19h, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir Président.
Bonsoir.
Baptiste Després, Le Figaro. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir Président.
Bonsoir.
À 19h, nous rejoindrons Cindy Colmenares et Florian Gazan pour tous les débats dans Fait le match, sans oublier évidemment vos messages. Vos messages sur le compte Twitter, @RTLFoot. Vous écoutez, on refait le match, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
Le Parc des Princes, si vous le voulez bien, avant toute chose, Noël Le Graët, Paris Saint-Germain, Nice, Nicolas Georgerot, bonsoir. C'est la seconde période.
Oui, la seconde période, il reste un gros quart d'heure à jouer. Et ce score d'un but partout entre le Paris Saint-Germain et Nice, c'est le PSG qui avait ouvert le score en première période grâce à Draxler, son troisième but de la saison. Et puis une seconde période complètement différente pour les Niçois qui étaient très inoffensifs sur les 45 premières minutes, mais qui ont ensuite égalisé grâce à Rony Lopez et surtout une très mauvaise relance de la part de Kerrer qui avait relancé dans l'axe, et la frappe de Rony Lopez a trompé Navas et puis derrière, et puis d'autres occasions pour l'OGC Nice. Et évidemment c'est une mauvaise affaire pour l'instant pour le PSG au regard de la concurrence qu'il y a avec Lille, Lyon et pourquoi pas Monaco aussi qui est quatrième du championnat. Un but partout entre le PSG et Nice, il reste 14 minutes et 30 secondes dans le temps réglementaire.
Merci Nicolas, nous reviendrons au parc bien évidemment avant 19h. Noël Le Graët est notre invité donc jusqu'à 19h, ex-maire de Guingamp, de la Ligue, président de la Ligue du football professionnel également, chef d'entreprise, président de la Fédération française de football depuis juin 2011. Une solide expérience, une réussite incontestable au sein de la Fédération, et sur le plan sportif et sur le plan économique. 79 ans, Noël Le Graët, et ça, vos adversaires estiment que ce n'est pas un gage de modernité pour la première fédération sportive de France qui rassemble 2 200 000 licenciés. Qu'avez-vous à leur répondre ?
Que l'expérience n'est pas plus mauvaise. Et donc je préfère l'expérience à ceux qui n'en ont pas.
Vous n'avez pas envie, de temps en temps, de repos, d'une retraite en famille ? Vos petits-enfants ne réclament pas Papy Noël ?
Ah si, je vous assure qu'on a une vie de famille extraordinaire. J'ai la chance d'avoir 9 petits-enfants que je vois souvent, qui aiment bien leur grand-père. Et très franchement, au niveau familial, ils étaient plutôt « vas-y papy, vas-y grand-père ».
Retourne à la Fédération.
Reste à la Fédé.
Reste à la Fédération. Vos amis, les vrais, sont à Guingamp depuis longtemps ?
Oui, bah écoutez, je suis né à Guingamp. Mes entreprises sont dans un rayon proche de Guingamp. J'ai longtemps présidé en avant de Guingamp. Et donc, mes amis d'enfance, ceux que je fréquente régulièrement, sont guingampais ou en tout cas proches de Guingamp.
Vous parlez de vos entreprises que vous dirigez. La crise économique est terrible actuellement, télétravail ou alors emploi menacé. Vous êtes fidèle au poste, vous êtes à l'écoute de vos employés.
Bah écoutez, nous, on a un peu de chance, je dois dire. On est dans l'agro, et l'agro est moins touché que d'autres professions. La consommation est restée relativement forte, même si les restaurants sont fermés. La grande distribution aura largement compensé les manques éventuels. Donc on n'a pas le personnel à travailler normalement. On a une chance folle de fabriquer des conserves, du surgelé, et d'être présent sur les ports pour le poisson.
L'agroalimentaire est essentiellement, effectivement, concernant le poisson, les fruits de mer. À deux reprises, Noël Le Graët, vous avez vaincu deux graves maladies. C'est le travail, ce sont les dossiers qui vous ont sauvé. Si vous aviez arrêté, ça aurait été déjà une première petite mort.
Moi, je pense que je conseille à tous ceux qui ont une maladie, s'ils le peuvent, garder une fonction, soit dans une asso, soit être occupé. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de rester à la maison, même si on est bien chez soi. Moi, j'ai continué de travailler le plus possible. J'ai essayé, en tout cas, d'être présent et réussi. Je ne pense pas avoir raté beaucoup de réunions à la Fédération. Je crois que c'est une bonne solution. En réveillant tous les matins, j'avais plutôt envie d'aller au travail après les soins habituels.
Est-ce que la maladie a changé votre regard sur vos amis et vos adversaires également? Car on vous dit parfois cash, sans état d'âme, quand vous travaillez à la Fédération française de football.
Alors, c'est un peu des mensonges. Vous savez, on change pas tant que ça sa nature. Vous savez, la Fédération, ou dans une entreprise, ou ici, il faut savoir dire oui ou non. Un moment. Et vous n'êtes pas toujours populaire quand il faut dire non. Mais c'est tellement facile de dire oui à tout le monde quand les gens ne comprennent pas aussi vite qu'ils devraient. Bon, on peut être un peu braque par moment.
Philippe Sansfourche, RTL, Baptiste Després, Le Figaro.
Noël Le Graët, tout au long de ces années, vous avez construit une équipe avec des gens solides autour de vous. Comment expliquez-vous le fait que vous n'ayez pas eu la possibilité ou l'envie, j'en sais rien, vous allez nous le dire, de pousser quelqu'un justement à votre succession?
Ah ben écoutez, on en discute tout le temps. Le moment n'était pas venu parce que je souhaitais continuer. Mais il se trouve que dans l'équipe actuelle que vous connaissez, il est probable qu'il y a un futur président de fédération. Ceci dit, il faut être indépendant complètement. Ce n'est pas si facile. Je pense à Marc Keller, par exemple, qui est jeune et qui a du talent. Il faut vendre Strasbourg ou quitter le club. Et ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Moi-même, quand j'ai dû quitter Guingamp, ben à un moment, il y a un petit côté crève-cœur. Ce n'est pas facile. Mais je crois qu'en tout cas, je travaille en équipe. Vous savez, bien sûr, je suis plus connu que d'autres, parce que vous m'interviewez, mais je travaille en équipe. Vous savez, c'est impossible de tout faire tout seul. Dans plein de regardez mon équipe, elle est forte. Et vous pensez très bien que toutes les décisions qui sont prises, je ne les prends pas tout seul dans mon bureau. Je consulte, mais je tranche. Vous savez, quand on a un poste de patron, quel qu'il soit, il est important de dire oui ou non dans les délais les plus courts. Si vous vous trompez souvent, il faut changer de métier.
Si vous êtes réélu président, Marc Keller est votre successeur idéal? Non, c'est terminé la piste Didier Deschamps?
C'est Didier, c'est lui qui, moi je pense que très franchement, Didier ferait un président de fédération remarquable.
Pourquoi?
Ben parce qu'il a d'abord une qualité sportive, vous les connaissez, il sait compter, et il a des contacts agréables avec nos sponsors, ça compte, avec vous tous. C'est quelqu'un de... Bon, ceci dit, je ne le vois pas, parce que quand même, je le rencontre souvent. Après le Qatar, dire « Allez, ça m'intéresse », je ne crois pas, mais j'aurais aimé.
Vous avez dans votre équipe Jean-Michel Aulas, également, qui a beaucoup fait parler de lui, notamment la saison dernière, lors de la crise sanitaire. Il a un peu la double casquette. Il est président de son club, il le défend bien, beaucoup, souvent. Est-ce que c'est compatible avec l'intérêt général?
Oui, parce qu'à la Fédé, vous avez remarqué qu'il a tout voté. Toujours. Dans l'intérêt général, justement, de la Fédération. Après, quand il quitte la Fédé, quelquefois, il défend son club, quelquefois un peu trop, mais c'est quelqu'un quand même de remarquable. Il est intelligent, il travaille, prépare tous ses dossiers. Je n'ai jamais vu arriver à la Fédé sans avoir préparé le plus petit dossier. Jamais. C'est le plus présent. Il a tout voté, même ce qui était contre son club, quand il a fallu prendre des décisions à la Fédération. Mais quand il revient à Lyon, il a la liberté de parler.
Jean-Michel Aulas n'est pas trop clivant par rapport au monde du foot amateur que vous représentez précisément au sein de cette fédération. Et est-ce qu'en même temps, ça ne vous a pas permis de rallier sur votre liste Jamel Sandjak, qui est le président de la Ligue Paris-Île-de-France, qui a été votre adversaire? Et parfois, ça ne s'est pas bien passé avec Jamel Sandjak. Donc il a fallu doser dans cette liste?
Vous savez, aujourd'hui, il est sur ma liste, Jamel. Et je vais vous dire pourquoi il est sur ma liste. Ce n'est pas une question de rivalité entre les hommes. Pendant la période du Covid, que vous avez tous suivi, on avait une réunion tous les mardis matin avec les présidents de Ligue. Et je vous assure que c'est un homme intelligent. Et j'ai appris un peu à mieux le connaître. On a souvent été, vous savez, on est quelquefois adversaires, on ne sait même pas pourquoi. Donc dans le cas, effectivement, de décision qui devait être prise, Jamel était quelqu'un qui connaît bien le foot amateur, d'abord. Et qui conseillait sur un ton agréable l'ensemble de ses collègues. Et j'ai assisté à toutes ces réunions.
Une campagne présidentielle, c'est une façon de rentrer aussi dans l'arène. Est-ce que vous êtes prêt à prendre des coups et aussi à en donner? Et qui craignez-vous le plus entre Michel Moulin et Frédéric Thiriet?
Non, mais c'est déjà pas mal qui se présente. Je préfère quand même qu'il y ait des candidats, parce qu'on dit souvent qu'il faudrait ceci, qu'il faudrait cela. Frédéric connaît un peu le système quand même. Il se présente, c'est un acte de courage. Ce Moulin, je le connais moins. J'ai déjà dit, j'ai dû dîner avec lui une fois, il y a 3-4 ans, avec un ami sponsor, mais je n'ai pas eu de rapport avec lui, donc je ne connais pas bien l'homme.
Vous les craignez ?
La crainte ne fait pas partie de... Quand on est candidat, on doit d'abord être bien préparer ses dossiers, ne pas être certain de gagner, ce serait une erreur monumentale. Donc dès la semaine prochaine, je vais commencer un Tour de France, que l'on a déjà commencé, je ne vais pas dire hors délai, mais ils étaient un peu moins connus, donc il fallait démarrer plus tôt.
Les deux axes de critique de votre challenger, pour Frédéric Thiriez, c'est que vous n'en faites pas assez, notamment sur le football amateur. Pour Michel Moulin, pas assez sur le football amateur également, avec une désorganisation au sein de la Fédération française de football. Vous étiez un patron, vous l'êtes peut-être un peu moins, avec des décisions que vous ne prenez plus ou que vous laissez arbitrer par délégation.
Pas de m'en fout. Interroger les gens de la Fédé, c'est tellement facile tout le temps de répondre brutalement aux gens qui critiquent. Il y a eu des petits problèmes de rapport humain au sein de la Fédération. Je les ai réglés avec tranquillité. Je veux dire, gentillesse, c'est peut-être intelligence.
On le disait, le football amateur est central dans cette campagne. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a des souffrances en ce moment. Concrètement, vous faites déjà beaucoup pour le football amateur, mais comment faire mieux ? Comment faire plus, que ce soit sur le plan financier ou autre ?
Sur le plan financier, enfin, vous connaissez tous un petit peu les chiffres, on ne va pas les rabâcher. On est passé de 20 millions à 94 millions, je crois, d'aide pour le football amateur. Alors après, tout le monde n'a pas d'argent, évidemment, parce qu'il y a 18 000 clubs. Ceci dit, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'actions de mener pour le football amateur. Qu'on puisse dépenser différemment, c'est toujours possible. Moi, je suis toujours à l'écoute de gens qui ont des conseils intelligents. Mais en tout cas, quand on regarde les chiffres de façon réaliste, nos sponsors, bah, grâce à eux, parce que tout l'argent du sponsoring va au football amateur. Et le gros handicap actuel, il y a quand même le Covid, il faut aussi un peu en parler. L'équipe de France, on n'a pas de spectateurs depuis novembre de l'année, pas de l'année dernière, de l'année avant. Avouez qu'il y a un sacré manque à gagner. Mais malgré ça, nos engagements seront tenus pour le football amateur jusqu'à fin juin.
Comment faire venir les licenciés ? Parce qu'il y a une baisse des licenciés, alors, comme dans toutes les fédérations, hein, on est d'accord.
Excusez-moi, oui. Il y a une baisse importante des 6 ans, 10 ans. Parce que les écoles de football ne fonctionnent pas, ou fonctionnent de façon occasionnelle dans certaines villes. Alors vous avez raison, c'est une très bonne question. J'espère qu'à la rentrée, le virus, parce que ça tient là, le reste, franchement, vous savez, les gamins reviendront très très vite. On fera en sorte d'aider davantage, ça c'est dans nos espoirs. On fera moins de choses pour un certain nombre de dossiers, mais faire revenir les petits, c'est indispensable rapidement. Mais c'est uniquement la baisse de licenciés, il n'y en a pas sur les adultes. La baisse des licenciés féminines sur les adultes non plus, mais sur les gamins, oui. Parce que d'abord, les écoles de football ne fonctionnaient pas.
Sur ce sujet, qu'est-ce que vous ferez mieux si vous êtes réélu ?
Pour les gamins ?
Sur les gamins et sur le foot amateur.
Ça fait partie de vos propositions. Hein. Je montre à la caméra, puisque l'émission est filmée d'ailleurs. Oui. Vous avez un dossier avec 4 axes, 21 propositions. Oui. Et notamment un gros effort. Je ne sais plus quelle est la proposition. Je vais la retrouver, le numéro de proposition, mais sur le football amateur.
Hein. Sur le football amateur, on va aider tous les clubs qui ont des jeunes, c'est-à-dire que les écoles de football, en matériel, c'est souvent ce qu'ils demandent. On a la chance aussi d'avoir un sponsor de grande qualité. Je pense que c'est le sponsor numéro 1 mondial. On a le droit de citer les marques.
Pourquoi pas ?
Nike. Donc on a quand même beaucoup de chance de les avoir et je sais qu'on fera des actions importantes avec eux à la rentrée dès que les gamins pourront revenir au stade.
Alors, en général, on cite 2 autres marques pour équilibrer, donc on citera Adidas et Umbro par exemple, voilà. si vous m'autorisez, bien évidemment. Vos détracteurs disent que vous avez... privilégier les cases Coupe de France pour le foot professionnel, mais également les cases Équipe de France au détriment du reste du calendrier. C'est-à-dire que vous êtes, d'une certaine façon, vous avez voulu passer en force pour privilégier les ressources au sein de la fédération sur des compétitions bien déterminées, au détriment du championnat de France notamment.
Bon, écoutez, vous savez très bien que c'est pas vrai, parce que vous êtes un spécialiste du football. D'abord, les dates d'Équipe de France sont fixées par l'UEFA. Ou la FIFA, selon les compétitions, pour la fédération. Il y a des arrêts de 15 jours obligatoires. La Coupe de France, c'est de plus en plus difficile de la caser, parce qu'effectivement, l'UEFA et la FIFA sont un peu gourmandes dans les compétitions, donc c'est extrêmement difficile. Donc on n'a pas privilégié, au contraire, on a quelquefois du mal à trouver des dates pour les matchs. Là, cette année, on a voulu relancer, avec l'accord du ministère, parce que vous savez, on ne fait rien sans les discussions avec le ministère. On a beau dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous, nos contacts permanents, c'est le ministère. Et on a réussi, moi je trouve que c'est quand même un bon succès, à ce que 258 clubs amateurs démarre la Coupe de France cette année. Et pour le moment, je suis très heureux parce que pas d'incident et ça s'est plutôt bien passé. Par contre, il y aura toujours des critiques. Mais si vous écoutez toutes les critiques, je vous jure, vous ne faites rien.
C'est le jeu de la démocratie, c'est le jeu d'une élection. C'est le jeu également d'un constat qui vient de la part de vos adversaires, Michel Moulin, Frédéric Thiriez.
Ah ben d'accord, mais je ne suis pas là pour faire un débat avec eux, vous m'avez invité. Donc posez-moi les questions qui vous intéressent, même les plus dures.
On va vous poser les questions, et même les plus dures, sur le football professionnel dans un instant. J'ai encore une question sur le foot amateur. C'est une actualité avec des clubs en Alsace qui dit « Nous, on ne joue plus, on ne paye plus ». Ras-le-bol. C'est-à-dire que tout ce qu'on devait au district ou à la Ligue, notamment les frais d'assurance, etc., il n'y a aucune raison, on n'a plus d'argent dans les caisses, stop, faut arrêter.
Oui, je pense que, comment vous dire, les petits clubs, et dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif, vous en doutez bien, n'ont pas une envie folle de continuer. Alors que les clubs amateurs de National 1, National 2, National 3, ou les filles, ont plutôt très très envie. Donc il y a toujours par région des gens qui ont des idées, c'est normal. Les districts, on va mieux les écouter. Ceux qui ne vont pas jouer, vous voyez qu'on va les ponctionner. Parce que là, c'est les districts, c'est pas la fédération.
Tout à fait. Mais malgré tout, il y a un jeu de chaises musicales qui fait que vous êtes aussi responsable de cela. Est-ce que les championnats amateurs vont pouvoir reprendre cette saison?
Je ne sais pas comment vous répondre. On peut répondre oui ou non. Oui, j'espère en tout cas que peut-être National 2, National 3, et quelques groupes, les filles pourront reprendre. C'est plus compliqué pour les petits clubs dont vous parlez, qui ne sont pas préparés. Souvent les mairies, les terrains sont un petit peu, non pas délaissés, hein, ce n'est pas des critiques, mais c'est la réalité. On est déjà mi-février.
Il y a une date limite?
Pour moi, c'est dans un mois. Pour les petits clubs, si on n'y arrive pas, il vaudra mieux attendre qu'ils organisent des tournois, des matchs amicaux, et il faudra savoir siffler à la fin de la récré.
On entend qu'il y a une grosse réserve donc, hein, sur les petits clubs, leur championnat, championnat amateur, les clubs de district, les R1, R2, etc. Donc grosse réserve de la part de la Fédération française de football sur la tenue de ces compétitions.
Il y a des questions qui se posent parce que dans nos comités, vous savez, il y a la Fédération avec les membres là, que vous connaissez, mais on a aussi une ligue amateur où il y a des présidents de district, des présidents de ligue. Donc on voit bien qu'il y a des différences ou des divergences entre les régions d'abord, ou entre les hommes. Moi, mon souhait, c'est de jouer tout le temps. Je préfère, quand on peut. Mais là, on arrive aussi à des dates qui deviennent très compliquées.
On refait le match. Noël Le Graët avec nous, le président actuel de la Fédération française de football, qui se lance pour un quatrième mandat. L'élection aura lieu le 13 mars prochain. Noël Le Graët, après ceci.
RTL. On refait le match.
18h47, c'est le direct également dans la loge VIP de Noël Le Graët, le direct, le Parc des Princes, le PSG est devant Nicolas Georgiou, mais que c'est compliqué pour l'équipe du Paris Saint-Germain face à Lorient.
C'est très dur, face à Nice. Le score, évolution du score, 2-1, avec le but de Moïse Keane tout à l'heure sur une belle remise de la tête de Icardi, et Keane qui est venu battre de près Benitez. On rappelle les buteurs tout à l'heure avec Draxler en première période, Ronny Lopez qui avait égalisé suite à une très mauvaise relance de Kerrer, et c'est vrai, c'est très compliqué pour le Paris Saint-Germain en seconde période, et on voit même d'ailleurs après ce deuxième but parisien, les Niçois qui y croient encore. On a vu une tête de Todibo qui n'était pas cadrée, mais sur un bon centre venu de la gauche, Todibo, cette tête qui est passée au-dessus du but de Navas. Bakker, Sarabia, Danilo, Herrera sont entrés, évidemment on pense déjà au 8e de finale aller de Ligue des Champions, et le PSG est dans cette gestion de fin de rencontre. On est dans le temps additionnel, 2-1 pour PSG face à Nice.
PSG Nice, bien sûr, mais Nice comme Lorient sont deux belles stations balnéaires. À tout à l'heure, peu avant 19h, Nicolas Georgiou pour valider ce résultat. Le Paris Saint-Germain qui mène face à Nice, donc sur le score de 2-1.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, l'élection du 13 février, après avoir reçu Frédéric Thiriez, après avoir reçu Michel Moulin. Le président en exercice est avec nous dans ce studio RTL de Neuilly. Merci encore Noël Le Graët pour l'interroger. Baptiste Després du Figaro, Philippe Sansfourche de RTL. Le football professionnel également a connu pas mal de vicissitudes ces dernières semaines.
Oui, le football professionnel qui a beaucoup souffert également et qui demande aujourd'hui très officiellement via la Ligue un plan de soutien au gouvernement. Est-ce que vous adhérez à cette démarche, et si oui, quelles sont les mesures phares sur lesquelles il faut travailler?
Et pardonnez-moi, j'ai dit 13 février, l'élection, c'est 13 mars, bien sûr.
Pas, vous avez...
Pour les auditeurs.
J'ai pas voulu reprendre
pour les auditeurs,
parce que je suis bien élevé. Non, je pense qu'ils ont raison, parce que c'est une activité industrielle, à la limite, lourde, avec des pertes considérables. n'y a plus personne sur les stades, les sponsors, c'est plus compliqué. Et puis, je ne vais pas vous raconter l'histoire des droits télé, qui a quand même changé la donne ces derniers jours. Alors qu'ils essaient, à juste titre, de trouver des compensations, oui. L'État fait déjà beaucoup, quand même. Il faut être réaliste. J'aime pas trop quand on critique sans arrêt l'État. Quand on ne sait plus quoi dire, c'est l'État. Non, l'État a été assez... le PGE, je pense que le football en a profité, entre guillemets, mais il faudra rembourser. Et comme les recettes sont quand même moins fortes sur les deux années ou trois années qui viennent, sauf miracle dans un futur appel d'offres, je pense effectivement que le football est en danger économique. Et j'ai toujours dit, vous savez, dans le temps, le football ne meurt jamais de sport, mais d'argent. Vous savez, quand on n'a plus les moyens de recevoir les gamins ou de payer ses salariés, parce que ce sont des salariés, certains clubs sont dans cette situation. Donc ça mérite une attention particulière de l'État, même s'il y a eu beaucoup de choses de faites. Beaucoup de régions aident beaucoup d'entreprises. C'est une entreprise nationale, forte, avec beaucoup de salariés en dehors des joueurs. Ça mérite effectivement une très bonne réunion, une bonne discussion, et évidemment des aides financières, obligatoirement. Vous savez, quelle est l'autre
aide possible ? Une baisse des charges, par exemple ?
Pardon ?
Une baisse des charges, par exemple, qui sont très lourdes en France par rapport aux autres pays ?
Oui, mais enfin, c'est très difficile, parce que quand le football, si vous baissez les charges, d'autres entreprises peuvent dire pourquoi pas nous. Bon, je pense qu'une aide économique serait la bienvenue.
Président, sur le sujet explosif des droits télé, quelles leçons vous tirez du fiasco Mediapro ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut désigner des coupables ?
Non, vous savez, quand tout le monde criait victoire au moment de l'ouverture des plis, avec une entreprise qui en Espagne fonctionne pas mal, donc c'était pas prévu, bien évidemment. Donc aller critiquer Pierre, Paul ou Jacques aujourd'hui, ça n'a pas de sens quand on fait les choses, quand on voit les choses longtemps après. Bon, bien entendu, c'est une claque forte pour le football, parce qu'on passe quand même de 750 millions à 1 milliard, ça fait quelques 400 millions, 500 millions d'écart. Donc c'est extrêmement dur pour des clubs qui ont déjà dépensé un petit peu, et c'est juste, puisqu'ils avaient cet argent de prévu, et même encaissé une partie en début de championnat. Donc dire qu'il y a des coupables, ma réponse est non.
Il ne peut pas y avoir de remise en cause des dirigeants ?
Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Ils auraient pu prendre une garantie peut-être supérieure. Ceci dit, c'était tous ceux qui critiquent aujourd'hui levaient ou trinquaient ensemble le jour de l'ouverture des prix.
Sauf peut-être Pierre Ferracci, que vous appréciez d'ailleurs, le président du Paris Football Club, lundi soir sur Bein Maxi League 2. Il disait cette phrase lourde de sens : n'importe quelle personne bien intentionnée pour le football n'aurait pas signé un accord de ce type sans prendre de garantie.
C'est possible qu'il l'a dit aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un ami, donc je peux facilement le dire. Il n'a pas hurlé peut-être assez fort, puisqu'il était dans ceux qui étaient assez proches de la présidence de la Ligue à l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, on ne referait pas la même chose, mais ça paraissait miraculeux de se rapprocher ou de dépasser nos concurrents. N'oubliez pas que l'Angleterre est à plus de tout près de 3 milliards encore aujourd'hui, que l'Allemagne est passée à 1,3 milliard. L'Espagne est à 1,3 milliard et l'Italie 1,2 milliard ou 1,3 milliard. Donc la France, on est en retard, parce que peut-être manque de concurrence, manque aussi sûrement peut-être de savoir-vivre par rapport à notre principal fournisseur depuis des années. Je pense qu'il y a eu des ratés dans les relations, mais ceci dit, l'ouverture des prix après l'appel d'offres, tout le monde était heureux.
Mauvaise exposition peut-être aussi du football. Et assez paradoxalement, cette semaine, on a appris par exemple que le diffuseur, désormais numéro 1, unique, Canal, passait son affiche du samedi 21h au samedi à 13h.
Il y aura sûrement des réunions importantes bientôt pour tout ça, mais Canal avait aussi ses propres programmes. Et donc, modifier l'ensemble de leur grille, c'est pas évident.
La Ligue qui demande donc un plan de soutien d'urgence, vous avez un peu évoqué cette aide il y a quelques instants, ça vous paraît quand même judicieux par les temps qui courent, après justement les dysfonctionnements constatés, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de paradoxe et même d'indécence finalement ?
Non, vous avez raison, moi j'aime pas trop effectivement la course aux subventions. Ça n'a jamais été mon truc dans ni mes entreprises, ni à la Fédé, où on n'est pas... Mais les chiffres sont tellement importants. Donc n'importe quel président a commis les mêmes actions, c'est-à-dire recruter et imaginer un budget qu'ils ne peuvent pas tenir et ils ne sont pas tout à fait coupables. Alors l'État, et c'est quand même un soutien important pour beaucoup d'entreprises, il y a eu beaucoup d'aides Alors pourquoi pas le football, qui a une activité aussi importante que d'autres.
Philippe Sanfourche, il y a peut-être aussi d'autres solutions, la réorganisation du championnat.
On voit bien que cette crise a redonné plus de poids, notamment à Canal+, mais aux diffuseurs en général, qui ont un peu plus la main et la Ligue étant un peu en difficulté. Est-ce que le risque est qu'elle n'accepte pas des choses qui pourraient un petit peu bouleverser la vie du football? On parle d'une élite réduite, peut-être à 18 clubs, voire à 16 clubs. Est-ce que vous accompagnez ce mouvement-là ou vous dites, attention, en tant que président de la fédération, on a un œil, on a un droit de regard, on fera attention?
Ah ben de toute façon, on a le droit de regard, c'est les textes. On a tout ce qui est voté par la Ligue doit être agréé par la fédération. Donc l'intérêt, c'est de travailler main dans la main pour éviter les conflits. Mais je vais vous surprendre, peut-être j'ai été président de la Ligue pas mal de temps, et j'étais passé à 18. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui,
4-5 saisons.
Quand je suis parti, ils sont repassés à 20. Regardez bien les dates.
Ça veut dire un resserrement de l'élite, aujourd'hui, c'est une piste.
Je regardais le nombre de matchs de l'UEFA qui vont encore, après 2024, augmenter. Puisque dans la nouvelle réforme de la Champions League, à laquelle nous ne sommes pas étrangers au niveau proposition, parce que l'ancienne proposition, c'était pratiquement une ligue fermée. Donc ce qui va être présenté, ce que vous avez déjà peut-être
connaissance. La ligue fermée, vous n'en voulez pas. Non, en revanche, c'est une ligue des champions avec plus de matchs quand même, 5 ou 6 matchs par club.
C'est ce que je vous dis.
Mais avec 3 clubs français.
Minimum.
En ligue des champions?
En ligue des champions. Minimum dans la nouvelle réforme. Mais à condition aussi que nos clubs disputent des compétitions et gagnent quelques matchs. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on est 5e au niveau du classement. Le 6e n'est pas très loin. Et les 5 premiers, donc les 5 premiers, auront au moins un, voire 2 clubs de plus. Mais ce qui est important, c'est votre question, c'est quand même 4 dates de plus en semaine.
En semaine.
Dans le championnat. Ceci dit, la Coupe de la Ligue n'existe plus. Donc il y a déjà des dates possibles, 2 ou 3. Peut-être qu'on peut jouer aussi, avancer le championnat. Je sais que beaucoup sont pour les grands clubs, surtout pour 18, voire 16. Donc les clubs discuteront entre eux dans les jours.
Mais vous avez une préférence quand même, 16 clubs, vous n'êtes pas fermé à cette idée-là?
Si, 16 clubs, actuellement ça ne colle pas. Bon, mais de toute façon, les décisions qui sont prises ne sont qu'après, pour après 2024.
Noël Le Graët, on va s'interrompre quelques instants. Nous avons des questions d'actualité très chaudes, très sensibles à vous poser. On vous les posera derrière les informations de 19h avant de retrouver les débats dont fait le match. Philippe Sanfourche, Baptiste Durieux, toujours en studio. Nous rejoindrons Cindy Colmenares et Florian Gazan, bien sûr. Match terminé au Parc des Princes, Paris Saint-Germain-Nice, Nicolas Georgerot.
Avec le succès du Paris Saint-Germain, 2-1, des buts de Draxler en première période à la 22e et Keane ensuite en seconde période. Son 10e but de la saison pour l'attaquant italien, c'est Ronny Lopez qui avait égalisé pour les Azuréens en début de seconde période. Ce n'est pas un grand match pour les Parisiens finalement. Ce qu'il y aura eu de plus éclatant pour eux, c'était leur maillot mauve et rose flashy, ce 4e maillot qu'ils étrennaient cette saison. Mais en tout cas, l'essentiel à 3 jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions, c'est ce succès en championnat en Ligue 1 évidemment, puisqu'il y a la lutte avec Lille, avec Lyon et Monaco. Et en attendant le match des Lillois, et bien pour l'instant le PSG est revenu à hauteur du LOSC, 54 points et dernier point, et bien il n'y a pas de blessé ce soir, même s'il y a eu une alerte pour Idriss Agueil en première période, mais qui a continué, il est resté sur le terrain, il a pu tenir sa place.
Et on débriefera évidemment, on fait le match dans un quart d'heure environ, de ce résultat malgré tout guère rassurant en vue de la Ligue des Champions, avec aussi un autre décryptage et les réactions nécessaires à partir de 20h dans RTL Foot. La publicité, les informations de 19h, les dernières questions d'actualité posées à Noël Le Graët, invité d'On fait le match en loge VIP. Et ensuite, on fait le match, tous les débats. Tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Et bientôt 5 minutes, quelques instants encore avec Noël Le Graët, candidat à sa succession à la présidence de la Fédération Française de Football. Je vous rappelle que cette élection aura lieu le 13 mars prochain. Je vous rappelle également qu'après avoir reçu dans la loge VIP d'On fait le match Frédéric Thirier et Michel Moulin, eux aussi candidats, et bien Noël Le Graët répond à nos dernières questions, quelques questions d'actualité avant de reprendre le fil normal d'On fait le match avec les débats, Philippe Sanfourche, Baptiste Després, Cindy Colmenares, Florian Gazan, puis à 20h, RTL Foot, votre rendez-vous du samedi soir. Noël Le Graët, avant 19h, il était question des compétitions européennes, nouveau format à l'étude avec peut-être la participation de 4 voire 5 clubs français. Mais est-ce qu'il n'y a pas une vraie inégalité entre clubs français et certains clubs européens susceptibles eux d'accumuler des dettes à n'en plus finir et que le fair play financier actuellement a du mal ou n'encadre plus du tout?
Bah écoutez, l'UEFA a fait ce qu'il fallait à un moment pour contrôler.
Comme le coronavirus a tout balayé.
Mais il trouve que la vie est belle et que tout le monde peut continuer de jouer. Donc je ne vais pas contrôler chaque club.
Vous déplorez qu'il n'y ait plus de garde-fous et que les clubs peuvent éventuellement continuer de s'endetter ? Un milliard de dettes pour Barcelone.
Le meilleur garde-fou, c'est sa propre gestion. Vous savez, des clubs qui continuent de s'endetter disparaîtront, de façon certaine. Tant qu'ils payent, c'est les banques qu'on détruit, pas forcément les clubs. Donc, des grands clubs, pour le moment, je ne crains pas qu'ils disparaissent. Ils trouveront des partenaires. C'est plutôt les clubs un peu moyens qui réussissent 3 ou 4 belles saisons qui peuvent être en danger en cas de changement complet de stratégie.
On peut tenir le même raisonnement sur les clubs français hein, qui ont budgété sur 2 ou 3 saisons des transferts et qui n'ont pas récupéré l'argent que devait payer Mediapro. Hein. Il y a gros danger quand même en fin de saison pour certains
clubs. Je pense vous l'avoir dit tout à l'heure. Bien sûr. C'était...
Noël Le Graët, on évoquait la question du format de championnat. Le format du foot même est remis en question par certains. Il y a des études qui montrent que la jeune génération a besoin de spectacles plus resserrés. Est-ce que c'est un danger pour le football ou est-ce que c'est une opportunité ?
Je pense qu'une crise comme celle-là, c'est obligatoirement une opportunité. Parce que ça va remettre plein de gens à réfléchir. D'abord, vous venez de le dire sur le nombre de clubs, par exemple, sur le foot amateur aussi. Est-ce qu'il y a trop de déplacements pour les petits clubs ? On doit effectivement réfléchir à ce genre de choses. Mais il y a surtout, vous savez, le football est éternel. Pardonnez-moi d'être aussi optimiste. Il y aura un temps dur, là, la fin du mandat, et sûrement l'année prochaine. Je crois qu'il y a une période où il faut redresser, alors qu'on était parfaitement bien. C'est plus dur aujourd'hui. Bien évidemment, je parle aussi économiquement et sportivement et même en image. Je pense qu'on a besoin d'un an et demi, à mon avis, pour retrouver, à condition que le virus ne nous joue pas des tours qu'il nous a joués depuis maintenant plus d'un an.
Ça, c'est une réflexion, effectivement, à plus long terme. Mais quand on entend parler même de réduction, par exemple, de la durée des matchs, qui serait trop longue, parce que les jeunes ne sont plus capables de se concentrer 2 fois 45 minutes.
Oui, enfin non, là, franchement, ça m'étonnerait, c'est le football, quand même, depuis des années, c'est 90 minutes. On a supprimé les prolongations, parce que c'est un peu compliqué, il y a tellement de matchs. Mais la durée, je ne vois pas. D'abord, c'est des décisions mondiales. C'est la FIFA qui déciderait ce genre de dossier. On peut toujours bavarder, nous, au coin d'une table.
Poussé par les diffuseurs, je crois que c'est le président Agnelli de la Juventus qui a évoqué
peut-être,
ça.
Mais Agnelli est important parce qu'il a un pouvoir assez large au sein de l'UEFA.
Mathis Després.
Tous ces sujets, est-ce que vous les évoquez avec le président de la République ? Vous avez connu Nicolas Sarkozy, vous avez connu François Hollande. Quelle relation vous avez avec le président Emmanuel Macron et quelle relation a-t-il avec le football ? Parce que l'exécutif a aussi été un peu décrié par rapport à, entre guillemets, son mépris pour le sport durant la crise.
Ben ça, à tort, parce que le président Macron a été généreux dans les rendez-vous. On a discuté de façon agréable. C'est lui qui a décidé à un moment, mais après concertation, d'arrêter la compétition. C'est pas la Ligue, ni c'est pas la Fédé.
C'est important ce que vous dites, Noël Le Graët, car on vous a accusé d'avoir tout arrêté s'il fait la fin de la récréation.
Moi, je gagne d'être accusé.
Il faut se souvenir que c'est le Premier ministre, devant la représentation nationale d'ailleurs, Édouard Philippe, qui a annoncé que le championnat devait s'arrêter.
Il y a eu 2 arrêts.
Mais vous l'avez conseillé.
Attendez, je peux répondre ?
Je vous en prie.
Il y a eu 2 arrêts. L'un, décidé par le président Macron à un moment donné. Ensuite, comme la situation ne s'est pas améliorée, le Premier ministre a demandé à nouveau l'arrêt. Il a consulté, mais ce n'est pas à nous qui allions pousser. On est là, très franchement, j'ai été extrêmement discipliné par rapport au médical. Je n'ai pas suffisamment de connaissances, et vous non plus. Médical pour dire on joue ou on ne joue pas. Donc ceux qui ont critiqué, ça m'est égal. Moi, je trouve qu'on a bien fait de ne pas mettre les gens en danger. C'est mieux d'éviter quelques matchs. C'est mieux, même si le football amateur, c'est difficile aujourd'hui. Je comprends tout ça. Mais c'est quand même nettement mieux de faire attention à la santé.
Alors factuellement, c'est vrai. On n'avait pas les masques, il n'y avait pas de vaccin, on ne savait pas où ce virus pouvait nous entraîner. Ouais. Simplement, certains vous disaient, mais regardez ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, ça continue.
Oui, les grands clubs ont continué de jouer. Pas les nôtres, mais il restait surtout peu d'argent à encaisser. Donc ça a été aussi l'une des raisons où la première division, la deuxième division n'a pas trop respecté.
Mais d'une manière générale, est-ce que vous avez l'impression quand même que le football est pris au sérieux par l'exécutif ?
Ah ben complètement. Mais écoutez, vous verriez le nombre de réunions que nous avons avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Sports, avec le Premier ministre. Il n'en est pas tous les jours, mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui est quasiment tous les jours dans le ministère. Et à titre personnel, je suis reçu quand je veux.
Je remonte de nouveau ce programme en 4 axes et 21 propositions aux caméras dont on fait le match, puisque cette émission est à retrouver en vidéo également sur le site, notamment internet rtl.fr. Proposition numéro 9, lancer le programme Le football pour mieux vivre ensemble. Vous avez regretté une petite phrase sur l'idée qu'il n'y avait pas de racisme dans le football. Vous avez rectifié.
Oui, c'était une maladresse, bien évidemment, parce qu'elle a été aussi mal interprétée. J'ai dit effectivement, en tout cas ce que je pense, c'est que dans les écoles de foot, tout le monde, les gamins s'adorent. Il n'y a pas effectivement cette difficulté qu'ont les adultes quelquefois. Mais regardez nos équipes nationales ou nos équipes de jeunes, vous voyez bien que tout le monde peut jouer au football. Dire qu'il n'y a pas de racisme autour du football, c'est sûrement une maladresse. Mais je dis effectivement que dans les vestiaires, avec les gamins ou les adultes, les petites querelles existent, mais ne sont pas forcément racistes.
Le communautarisme dans le football, il existe également. Il y a un danger, il faut être vigilant.
Il faut toujours être vigilant sur les excès, quels qu'ils soient.
On vous a également entendu pendant plusieurs semaines sur le cas Benzema. Alors, je ne vais pas vous poser la question sur Benzema, doit-il revenir en équipe de France, mais je vais prendre la question de Michel Moulin, qui est l'un de vos adversaires à cette élection, et qui dit « Moi, président de la Fédération, je sélectionnerai Karim Benzema ».
Ce n'est pas le rôle d'un président.
Quand vous l'avez lu, ça vous avez ressenti quoi? Ça vous a fait rire?
Oui. Mais il faut bien rire aussi dans la vie. Vous savez, vous ne me posez que des questions difficiles. Vous voyez, donc je peux pas rire. Mais très franchement, c'est une question qui m'a fait sourire plutôt.
Pas crédible?
Écoutez, franchement, je souhaite, s'il est élu, qu'il applique son programme. Je ne me regarde pas.
Noël Le Graët, une petite clarification. Vous avez évoqué le cas de Kylian Mbappé et de la possibilité ou pas qu'il participe aux Jeux Olympiques. C'est un non catégorique ou la porte reste encore un peu ouverte?
C'est plus compliqué aujourd'hui, si vous voulez, de par le resserrement du nombre de matchs. Vous savez, la fin de saison va être compliquée. L'équipe de France, il y a les championnats d'Europe. Le PSG, j'espère qu'il ira loin. Et c'est sûrement plus compliqué. Ceci dit, le joueur, si vous lui posez la question, il souhaite. Et ça, je trouve ça sympa. Je ne l'ai pas vu depuis quelque temps, puisque l'équipe de France, on n'a pas eu de réunion. Mais on va le revoir à la fin mars. Et on lui reposera la question. Mais lui, il va dire, ouais, je vais y aller.
Mais sur ce sujet, l'ultime décisionnaire, c'est vous, c'est Didier Deschamps?
Attendez, Didier Deschamps et moi, on s'entend de façon... Pour les JO. Moi, je pense que Didier ne sera pas contre que ce Mbappé aille disputer les JO si ça ne gêne pas l'équipe de France.
Nous sommes au-delà de 19h, Noël Le Graët.
Une question sympa pour finir.
Trois questions. Didier Deschamps, oui. Un contrat à vie?
Bah écoutez, en tout cas, si c'est moi, je pense qu'on rediscutera s'il le souhaite.
Derrière la Coupe du Monde au Qatar, et quel que soit le résultat?
Non, je ne dis pas. Écoutez, jusqu'à présent, vous savez, j'ai fait en sorte, quelquefois, de mettre les hommes en confiance avant les compétitions. La réponse appartient presque à Didier. Qu'est-ce qu'il veut faire de son avenir? Vous savez, s'il veut aller dans un grand club, il en trouvera. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui sera sur le bord de la touche sans problème. Mais enfin, est-ce qu'on peut trouver mieux, nous, aujourd'hui, en équipe de France?
Les résultats sont là. Mais la Zidane, qu'on renvoie à chaque fois derrière la succession Deschamps, ça vous agace?
Pas du tout. On a très bon rapport avec Zidane, à titre personnel. Si Didier arrêtait... Oui, et si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien sûr.
On évoque parfois le côté un peu frileux, pas forcément, on va sortir du cadre de l'équipe de France, mais globalement, de la culture des entraîneurs français. Ça, c'est aussi la DTN, la Fédé. Est-ce qu'il y a peut-être une petite révolution culturelle à faire de ce côté-là?
Moi, je trouve que nos équipes, regardez bien les classements. Pour la première fois, on est quand même deuxième mondial au niveau des garçons. Pour la première fois... Nos espoirs sont qualifiés aux championnats d'Europe et aux JO. Nos moins de 20 gagnent tout. Toutes nos sélections de jeunes, passez un jour à interroger peut-être le DTN de chez nous, nos moins de 16, nos moins de 17, nos moins de 18 vont toujours dans les quatre derniers. On était très loin il y a quelques années. Alors après, il y a les styles de jeu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est toujours un avis personnel, mais je pense que la DTN travaille bien.
Un DTN qui a pour nom Hubert Fournier, qui devrait peut-être se médiatiser un tout petit peu au passage. Votre message,
voilà. Ouais, invitez-le.
On parlait des sélectionneurs, Deschamps, Zidane. Il y en a un qui n'a pas la vie facile, ce sera un aller-retour, on l'a appris cette semaine, c'est Raymond Domenech. On jette les entraîneurs comme ça, comme des Kleenex, ça vous inspire quel type de réaction?
Je ne sais pas, effectivement... De toute façon, c'était difficile, ou c'est difficile, Nantes. Il n'y avait pas beaucoup de victoires. Il a voulu où il souhaite effectivement peut-être se relancer. Ça lui a plu, ça a été un coup de cœur, je le connais quand même assez bien. C'est toujours un peu dommage, ça tient à rien. J'ai regardé, pas quelques matchs, mais quand même deux ou trois matchs de Nantes, j'ai vu des résultats, ça tient à rien. Un tir sur un poteau...
C'est un peu humiliant quand même d'être. On l'appelle au bout de 5 matchs, on le vire.
Écoutez, c'est la vie des clubs. Ça, après, c'est un libre choix pour lui d'avoir accepté une proposition.
L'avis de la sélection féminine, au fait, Corinne Diacre.
On sait qu'elle a un devoir de résultat, elle les a sur le plan sportif. Il y a eu quelques crises sur le plan de l'atmosphère, du climat. Vous parliez de sa communication. Est-ce qu'elle a un devoir de résultat à ce niveau-là aussi?
Vous savez, regardez, elle fait de nombreux matchs depuis qu'elle le présente, depuis qu'elle l'entraîne. Combien de défaites?
Donc c'est que les résultats qui comptent.
Oh, les résultats, attends, il vaut mieux avoir quelqu'un qui gagne que quelqu'un d'extrêmement sympathique qui perd tous ses matchs. Vous seriez les premiers à hurler.
Noël Le Graët.
Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas sympathique.
Hein. Non, non.
Noël Le Graët, si Michel Moulin est élu à la tête de la présidence de la Fédération française de football, sa première décision, c'est de trouver des partenaires pour aider le football amateur qui est en danger de mort.
Je pense qu'il trouvera déjà une fédération où il y a 94 millions par an qui rentrent. Et qui vont au football amateur.
Si Frédéric Thierry est élu, lui, c'est un audit qu'il veut commander au sein de la Fédération française de football qui, dit-il, est traversé par une crise très violente. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis, on les a évoqués tout à l'heure.
J'ai même évoqué moi-même, donc je n'ai pas de complexe, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques difficultés relationnelles, mais ça existe en plein d'entreprises.
Quelle sera, vous, votre première décision si vous êtes réélu, Noël Le Graët?
Je pense que de toute façon, c'est toujours mettre en confiance mon équipe, bien les informer de ce qu'ils auront à faire sur le terrain, et puis ensuite avoir des cadres de qualité que j'ai, qui travaillent normalement. La fédération peut être critiquée sur telle ou telle décision, mais elle remplit sa mission avec des gens de qualité.
Vous avez montré du doigt votre programme 4 axes, 21 propositions. Merci beaucoup, Noël Le Graët, d'avoir répondu à notre invitation, à celle de Philippe Sanfourche pour RTL, Baptiste Després, Le Figaro. Élection donc, non pas le 13 février, mais le 13 mars prochain. Vous m'avez regardé tout à l'heure avec des yeux extrêmement...
Je me suis dit, je ne suis pas prêt.
Merci en tous les cas d'avoir répondu. On a débordé un tout petit peu. La suite et la fin dans un instant, bien évidemment, de On refait le match avec Baptiste Després, Philippe Sanfourche, et nous rejoindrons dans ce studio, Cindy Colmenares et Florian Gazan. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, tous les trois.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On refait le match, Philippe Sanfourche, Baptiste Després, toujours là. Cindy Colmenares qui nous rejoint, la voix ensoleillée d'On refait le match. Bonsoir Cindy.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et Florian Gazan, RTL Multi Thématique. Bonsoir Florian.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Alors madame, messieurs, débrief Noël Le Graët, débrief PSG Nice dans un instant. Le PSG l'a emporté difficilement face à Nice 2-1. Débrief Mbappé préféré à MC Solar. À MC.
Ouais, ouais.
À Messi.
Je vais y arriver. Il fait froid. Hein. Messi Solar.
Avec le sondage au Puxa. On parlera de Comboy également, sauvera-t-il le FC Nantes. Une grosse densité quand même d'interview avec Noël Le Graët. On va y revenir dans un instant. Le direct après PSG Nice. Il y a également Reims-Lens depuis 19h. Dimitri Ramelot, bonsoir.
Bonsoir à tous. 1-0 pour le stade de Reims depuis la 13e minute alors qu'on joue la 20e. Une tête de Zenelli sur une passe décisive de Boulaï Dia venue de la droite. Une tête qui a trompé le gardien du Racing Club de Lens. Reims 1, Lens 0. On joue depuis 20 minutes.
Antenne ouverte, bien évidemment, Dimitri Ramelot. Que vous le souhaitez. Messieurs, madame, un petit débrief sur l'intervention, interview événement tout de même. Noël Le Graët, on avait reçu Michel Moulin, on avait reçu Frédéric Thierry, Noël Le Graët également, qui a répondu à toutes les questions, sans véritable langue de bois, Florian Gazan.
Bah, il sait faire, hein, c'est un vrai homme politique, le plus politique des trois, Noël Le Graët. De toute façon, c'est très compliqué de le prendre à défaut. Après, voilà, il va, je pense, être réélu. Moi, ça m'attriste un petit peu qu'on ne soit pas capable, non pas de le remplacer, mais surtout qu'on n'ait pas quelqu'un qui soit du niveau de Noël Le Graët et un peu plus jeune. Quand je vois ce qui se passe à la Fédération française de tennis, on arrive à faire rentrer Gilles Moreton, à renouveler. Voilà, je trouve ça un peu dommage, quoi. Voilà.
Alors bon, on a parlé de Marc Keller, mais il est propriétaire du Racing Club de Strasbourg. Voilà. Puis on lui a posé la question, Didier Deschamps également. Il aimerait tant que ce soit Didier Deschamps, c'est Nicole Ménard.
Oui, ça, mais Didier Deschamps, il y a Loro là qui arrive, donc il est sur d'autres objectifs. Après, c'est vrai que la question, elle était bonne parce qu'on se demande si il n'avait pas pu se présenter, ben, il y aurait qui, en fait. fait, on aurait eu Moulin, Thierrès. Donc vraiment, au niveau de l'instabilité, parce que c'est aussi une question d'instabilité actuellement. Le football, il est dans une période très compliquée. Donc, on se tourne forcément vers quelqu'un qui a les statures politiques aussi, parce que c'est un job très politique, mais qui peut mener encore la fédération.
Philippe Sanfourche.
Vous savez, il y a une chose qui est taboue, c'est l'argent. On parle rarement d'argent, mais Noël Le Graët, il prend rien, zéro centime. Alors, on en a parlé au début de l'entretien. Il a une vie passée d'entrepreneur avec un petit empire industriel qui fait qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Mais dans l'agroalimentaire.
Ah oui, mais ouais. Aujourd'hui, si vous avez une personne de qualité compétente qui aurait 40, 50 ans et qui aurait envie de se lancer dans cette aventure-là, c'est un élément quand même à prendre en considération. Il faut aussi qu'il y ait... le besoin de pouvoir asseoir sa profession comme ça.
Et pour l'instant, il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil désigné. Bah
non, c'est triste.
Baptiste, non, il n'y a pas de profil, mais il y a Marc Keller. Mais effectivement, Marc Keller, aujourd'hui, il est à Strasbourg. Il est engagé dans un projet. La Méno va être rénovée dans quelques années. Enfin, c'est quand même assez conséquent de ce côté-là en Alsace. Et puis derrière, il l'a dit, Didier Deschamps, il a autre chose à faire aujourd'hui. Il en a profondément pas envie, Didier Deschamps, d'être président de la Fédération Française de Football. Donc, avec l'équipe actuelle, c'est Noël Le Graët qui repart au combat. On le sent quand même affûté, on le sent serein, on le sent tranquille, on le sent...
Honnêtement,
il le dit à demi-mot, mais, mais il est quand même relativement optimiste.
4 axes, 21 propositions. Alors, parmi ces propositions, d'ailleurs, il y a une information quand même qu'il nous a donnée à l'antenne, j'allais dire en sous-main. Non, à l'antenne, sur l'antenne. C'est tout de même qu'à la question de Philippe Sanfourche, quel délai pour le football amateur ? Football amateur, ce sont quand même des milliers et des milliers de joueurs, de dirigeants, d'arbitres, de bénévoles, etc. C'est, je m'accorde encore un mois pour savoir si les vrais amateurs, hein, les clubs de district, etc., peuvent continuer la compétition. Et on a le sentiment que c'est déjà plié.
Oui, compliqué.
Ça paraît très, très, très difficile. Et je pense qu'à un moment, il faudra malheureusement en faire le deuil et puis se projeter sur la saison prochaine. Ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui devient finalement même quelque part dérisoire. Et puis ça ressemblera même, ce sera même plus la compétition qu'on aime, quoi.
Et le foot professionnel également, cette semaine, on a appris que la Ligue demandait une nouvelle aide du gouvernement. Il a là, pour le coup, il a eu une réponse très politique. Hein. On l'a senti quand même très mitigé. Oui, le football professionnel est en danger, mais oui, le football et les autres secteurs d'activité ne peuvent pas demander tout et en permanence au gouvernement.
Oui, c'est pour ça qu'il appuie effectivement la demande de la Ligue, parce qu'il y a une situation d'urgence et qu'il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, on sait par différentes indiscrétions qu'au niveau du ministère des Sports comme du ministère de l'Économie, il y a des propositions qui seront faites, donc il y a un terrain d'entente qui est possible, mais ça se fera par des substitutions, peut-être que l'État va prendre le relais sur la taxe Buffet, des choses comme ça qui soient pas non plus des exonérations claires et nettes de charges, parce que là ça serait traîné de poudre et c'est intenable pour le gouvernement d'assumer une baisse de charges ou une exonération de charges pour le milieu du foot et de ne pas le faire pour tout le reste de l'économie.
Et il a bien insisté, Noël Le Graët. Hein. Oui, attention, hein, parce que les clubs sont, on le sait, largement endettés, mais vraiment le football professionnel, il l'a dit dans son intervention, est en danger.
Non, mais clairement, ce qui est aussi rassurant, c'est qu'il est dans ce poste depuis un certain temps, les relations avec le gouvernement, elles sont établies, il est ça, donc ça serait pas pareil que quelqu'un d'une nouvelle tête arrive. Monsieur Moulin est plutôt quelqu'un reconnu pour ses affaires, plutôt que pour la gestion d'une fédération. Les candidats qui auraient pu, avec lesquels auraient pu vraiment avoir match, c'est plutôt M. Thierrès, parce que bon, ils viennent à peu près du milieu du football, pas à peu près complètement, il était à l'effet. Et vraiment, il n'a pas réussi. Là, récemment, il y a Tony Parker qui disait qu'il s'est retrouvé dans la liste des personnes qui étaient du côté de Thierrès.
Sans
qu'on lui demande, alors que c'était faux. C'est des détails, mais j'ai l'impression que les autres candidats, il y a eu pas mal de détails comme ça qui viennent casser une image en pleine candidature.
Bah, on a quand même l'impression qu'il se retrouve face à Jean Lassalle et Olivier Faure, quoi, Noël Le Graët. Donc, bon, voilà, pour moi, c'est plié, quoi.
C'est un peu ça.
Et c'est vrai que Noël Le Graët était un peu invité du grand jury RTL Le Figaro, bah, voilà. Comme le soufflait en antenne tout à l'heure Philippe Sanfourche.
Il y avait de ça, ouais.
Dites-moi, Noël Le Graët, c'est aussi le patron, au-delà du foot amateur, de l'équipe de France, de la Coupe de France. De l'équipe de France, on lui a posé la question. Alors Didier Deschamps, c'est un contrat à vie. Il l'aime, hein, son Didier Deschamps.
Il l'adore. Il l'adore.
Tous, hein. c'est lui qui nous donne la Coupe du Monde.
Je me demande s'il n'arrive pas un petit peu la nuit, Didier Deschamps. Mais non, mais ils ont une relation extraordinaire. Ils n'arrêtent pas de le dire.
Et pourtant, il faut quand même se souvenir que ce n'était pas sa priorité.
Non, ce n'était pas sa priorité. Mais aujourd'hui, Didier Deschamps, incontournable dans l'équipe de France. On ne va pas rappeler ses états de service. Et derrière, il sait que l'équipe de France, aujourd'hui, les candidats, donc Thierrier et Moulin, l'attaquent sur quoi ? surtout pas sur l'équipe de France, surtout pas sur la
Zizou. Ah, bah alors Moulin, il s'est permis de l'attaquer
sur Benzema, c'est
l'équipe de France. Mais alors que c'est la seule chose sur laquelle la France gagne en ces moments si compliqués, il vient l'attaquer sur ça.
Mais justement, c'est risible. Quand on lui pose la question à Noël Le Graët, il répond à demi-mot, même pas à demi-mot, c'est Michel Moulin n'est pas crédible sur cette question-là.
Ça me fait sourire.
Voilà, ça me fait sourire.
Oui, il a aidé plus qu'autre chose.
Un peu plus loin, il va vous dire que Michel Moulin n'est pas crédible. Et sur cette question, c'est vrai que c'est pas crédible.
Oui, mais alors, vous auriez dû le pousser un petit peu plus loin.
Oui, mais on aurait dû avoir du
Philippe Sainfour, je suis équipe de France.
C'est bien que sur cette question-là, on dépasse le cadre sportif, on en sort même, puisque de toute façon, il n'y a pas débat. Non pas sur le niveau de Karim Benzema, puisque c'est un immense joueur, mais sur le niveau de l'équipe de France sans Karim Benzema, puisqu'elle a atteint son sommet sans lui. Donc le débat n'existe pas. Après, c'est d'aller sur d'autres terrains qui sont là beaucoup plus politiques, beaucoup plus sociologiques, et c'est une manière de surfer sur autre chose de la part de ses opposants.
C'est assez, oui, c'est ce que tu veux dire, Philippe, c'est que c'est assez opportuniste de sa part de ressortir ces sujets. La réponse est peut-être oui, mais bon, c'est aussi une affaire, on est en pleine campagne, c'est une affaire des communications, et sur les terrains de la communication, il faut le dire, c'est lui qui mène les choses dans les bons sens pour l'instant, c'est M. Le Graët.
Qui pourrait remplacer Didier Deschamps? Quand ça, c'est mystère et boule de gomme, mais Zidane, quand tu lui poses la question, eh bien, il répond qu'il a très bon rapport avec lui, qu'à titre personnel au moins, si Didier arrêtait, eh bien, et s'il était encore en place, la première personne qu'il verrait, c'est Zinedine Zidane.
Oui, et Zidane qui a dit aussi que ça pourrait l'intéresser cette semaine en conférence de presse, mais que pour l'instant, il était tourné vers le Real. Bah, c'est l'héritier naturel. Après, je ne suis pas persuadé que Zidane aura forcément les mêmes résultats que Didier Deschamps. Passer derrière Didier Deschamps, c'est compliqué. Et je pense que limite, l'intelligence pour Zidane, ce serait qu'il y ait un tampon, qu'il y en ait un qui passe avant lui, quoi.
Et c'est surtout que c'est une question de timing dans ces cas-là. C'est-à-dire que Zinedine Zidane, il avait arrêté le Real Madrid, il était disponible, il pouvait éventuellement s'engager. Là, ça peut s'arrêter, hein, on en parle toutes les semaines dès qu'il y a un mauvais résultat. Ça s'arrêtera à un moment donné, parce que déjà son parcours est long et exceptionnel. Mais derrière, est-ce qu'il prend le risque de s'effacer et d'attendre un éventuel échec de Didier Deschamps s'il n'intervient pas à cet échec et que Deschamps continue? Ou alors il se réengage sur un beau projet, mais du coup il ne sera peut-être pas disponible au moment où Didier Deschamps ne sera plus là.
Donc, le moment, c'est quoi?
C'est toujours compliqué.
Oui,
mais il y a à ce moment-là que Zinedine Zidane est repris, je ne sais pas, Manchester United ou le Bayern, et qu'ils soient en train de gagner une Ligue des Champions.
Mais
on comme ça.
Dans la carrière de Zidane, pardon, Cindy, c'est d'arrêter le Real Madrid, une petite mise au vert, un peu de repos, on est en famille et on attend de voir ce qui se passe après le Qatar.
Oui, sauf qu'avec Didier Deschamps, la mise au vert peut durer quand même assez longtemps. Et vous dites le Qatar, donc il y a l'Euro dans quelques mois.
Tu penses qu'il va prendre
Qatar
les
derrière,
risques?
Il peut aussi continuer s'il sent qu'il y a une génération et que son discours passe, et surtout qu'il a toujours envie, il continuera. S'il peut gagner le trophée, il ne va pas s'en priver.
Non mais Baptiste, tu penses qu'il va prendre les risques après avoir gagné la Coupe du Monde? Si là, la France, je ne veux pas être trop optimiste, mais remporte l'Euro et ils ont des chances de la remporter, de continuer encore pour partir perdant,
s'il a un vestiaire qui l'écoute, il continuera.
Mais il part gagnant. Didier Deschamps, c'est un gagnant.
Ça me paraît aujourd'hui, il est très intelligent, il sera arrêté au bon moment.
Zidane n'aurait pas dit, en tout cas, quelque chose de beaucoup plus évident, du style « oui, j'aimerais bien aller en équipe de France », parce que regardez ce qui se passe quand on dit des choses sur Messi, les Barça, les PSG, etc. Toute la panoplie des choses qui se passent dans les médias, il ne va pas oser, en étant dans une institution comme le Real, dire, répondre au coup de pied « oui, j'aimerais bien un jour ».
Non, mais il n'a pas balayé tout de suite quand même. Et vu la situation dans laquelle il est, c'est pas anodin. Anodin, ça veut dire qu'il rappelle quand même que l'équipe de France est extrêmement importante et qu'il est prêt à s'engager et qu'il entend le message de Noël Le Graët.
Vous le voyez, le titre à la une du Figaro, du Parisien, notre partenaire.
Avec les maillots de l'équipe de France.
Didier Deschamps, président de la Fédération française de football, et Zinedine Zidane, sélectionneur.
Moi, je pense plutôt que Didier Deschamps va être le Noël Le Graët des sélectionneurs et qu'il va nous faire 47 mandats.
À propos de Zizou, petit commentaire sur Twitter de l'ami Luis Fernandez. Luis, le joueur historique emblématique. L'immense Luis du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'équipe de France. On l'adore. Il est sur la liste, en tout cas, il est président du comité de soutien de Frédéric Thiriet. Hein. Le Graët annonce Zizou comme futur sélectionneur. Quel visionnaire, écrit Luis Fernandez. Purement une stratégie de communication. Et le foot amateur, on préfère parler de ce qui brille et de ce qui nous réussit, plutôt de ce qui souffre et qu'on délaisse. Avant d'être pro, on est amateur. Luis, tu as raison, mais Luis, permets-moi de te dire qu'on a posé aussi toutes les questions qu'il fallait poser à Noël Le Graët concernant le foot amateur.
Mais oui, c'est de bonne guerre.
Ah, c'est de bonne guerre, mais on l'adore, Luis. On va le faire venir, tiens, on fait le match.
Grand plaisir.
Avant
la pub, les amis, avant de parler du Paris Saint-Germain. Courte victoire quand même, hein. Pas très encourageante.
Laborieuse.
Avant de jouer Barcelone. 2-1 pour tous ceux qui nous rejoindraient. Un autre direct également, car on s'intéresse au football et à tous les footballs. Celui de nos régions, Reims-Lens, avec Dimitri Ramelot.
31 minutes ici au stade de l'Aune. 1-0 pour le stade de Reims. Zenelli a marqué à la 13e minute. Il y a eu deux occasions juste avant ça pour les Lensois qui n'ont pas concrétisé. Et depuis, les Lensois poussent, mais n'y arrivent pas. 1-0 pour Reims. Il reste 14 minutes avant la mi-temps.
Et avec Baptiste Durieux, la Ligue 2 qu'on adore également, quart d'heure par quart d'heure, la Ligue 2. Puis ensuite, ou avant, les messages sur les réseaux sociaux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Effectivement, bonsoir. La Ligue 2, seulement 2 buts inscrits pour l'instant par Dunkerque qui mène 1-0 donc face à Nancy. Et par 3, le leader qui mène 1-0 face à Rodez. 0-0 sur les autres pelouses. Cagnes, Châteauroux, Le Havre, Clermont-Chambly, Grenoble, Amiens, Pau, Paris FC. Puis effectivement, beaucoup de messages et de réactions à la suite de cet entretien avec Noël Le Graët. Message de Thomas. Noël Le Graët affirme que ce n'est pas le rôle d'un président de sélectionner Karim Benzema. Soit, mais ce n'est pas non plus le rôle d'un président de décréter que Karim Benzema n'est pas sélectionnable. Le cri du cœur également de Yann, qui est un acteur du football amateur, qui nous dit 94 millions d'euros, mais ils vont où ? Nous sommes en bout de chaîne, on ne touche rien, on ne voit rien dans le district. Pourtant, 2 années de suite qu'on paye des licences plein pot malgré la crise. Message d'Antoine, qui nous parle donc du président de la fédération. Posé, calme, compétent, une maîtrise de tous les sujets. Un mandat évidemment qui parle pour lui-même. Noël Le Graët, animal politique, à 10 longueurs d'avance sur ses concurrents. Et puis dernier message de William, la simple évocation d'un Zidane sélectionneur dans la bouche d'un président me fait rêver.
Je vous rappelle que c'est une émission podcastée que vous pouvez retrouver bien évidemment ou sur RTL.fr ou sur la toute nouvelle application. Et sur les deux supports, vous pouvez également retrouver la vidéo de Noël Le Graët, bien évidemment. La publicité, ami Boris, réalisateur de cette émission, on fait le match. Et ensuite, le Paris Saint-Germain, débrief du PSG qui a battu Nice sur le score de 2-1. On parlera également de Mbappé, visiblement préféré à Lionel Messi, non pas à MC Solar, hein, selon le sondage Odoxa Winamax pour RTL. On parlera également de Domenech viré. 7 matchs terminés, la sortie c'est par ici. Est-ce qu'Antoine Comboiré sauvera le football nantais? À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Baptiste Després du Figaro, avec Florian Gazan, multithématique sur RTL et notamment chaque samedi 8h, la grosse cote. C'est une chronique qu'il faut écouter. La voix ensoleillée dont fait le match Cindy Colmenares et le chef de rubrique football de RTL, Philippe Sanfourche. Après avoir accueilli Noël Le Graët, après avoir débriefé d'un candidat qui chasse quatrième mandat à la tête de la présidence de la Fédération française de football. On va parler un peu terrain et ce match guerre rassurant, ce résultat guerre rassurant, Philippe Sanfourche du Paris Saint-Germain face à Nice, 2-1 cet après-midi.
Il est paradoxal ce match parce qu'on attendait évidemment de voir comment le PSG allait à la fois réagir après la blessure de Neymar. D'un point de vue purement comptable et le championnat, il y avait vraiment nécessité de résultats parce que parfois à cette période de la saison, quand le PSG aborde ses huitièmes de finale de Ligue des Champions, il y a déjà plus beaucoup de suspense, hein, et le match c'est surtout pour pas se blesser. Là, faut pas se blesser, mais faut aussi le gagner le match d'un point de vue comptable. Et la première période, elle est très solide. Elle n'est pas géniale, mais elle est très solide. Hein, Pochettino a fait des choix forts, c'est-à-dire de mettre à la fois Icardi et Moïse Kean, mais Kean dans un rôle plutôt de piston à droite, parce que Sarabia, faut bien le dire, depuis quelques temps, n'est pas hyper performant. Draxler en 10, parce qu'on sait que Verratti, il faut encore le préserver après son coup à la hanche. Et Mbappé à gauche, qui était censé devenir le taulier. Première période, pas génial, mais très maîtrisé. Ouverture du score, normal. Nice, on sentait qu'ils étaient congelés par les moins 9 degrés ressentis au Parc des Princes. Et puis en seconde période, alors là, plus de son, plus d'image. Le PSG qui baisse physiquement, qui chute, plus d'intensité. Nice qui revient, qui tient le ballon, et qui égalise logiquement. Et le PSG, ok, s'en sort grâce à une superbe remise de Icardi là, pour le but de Kean. Mais sinon, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est très très difficile d'avoir une analyse construite sur l'ensemble de la rencontre.
Bon, l'essentiel, on va dire, classique, c'est les 3 points. Et les 0 blessés. Parce que ça aussi, c'était un des enjeux de ce match. Parce que là, Paris ne pouvait pas se payer le luxe d'avoir un nouveau blessé. On a eu peur un moment pour Gueye au milieu de la première mi-temps. Après, ce qui est très compliqué avec ce Paris Saint-Germain, d'abord en début de deuxième mi-temps, changement de système de Pochettino, il passe en 4-4-2 et du coup on sent que l'équipe est complètement déstabilisée. Ils prennent des vagues par Nice qui franchement égalise logiquement et peut même mener parce qu'ils ont les occasions. Bon, ça a été assez compliqué. Ils sont quand même allés chercher cette victoire, mine de rien. Mais le problème de Paris depuis des semaines, c'est qu'ils concèdent énormément de situations et que ça, c'est pas possible en Ligue des Champions.
Non, et puis surtout, quelque chose qui n'a pas rassuré du tout dans les buts de Nice, c'est qu'on voit que c'est sur une mauvaise relance des Marquinhos. Marquinhos qui n'est pas habitué à avoir ce genre des erreurs-là. Après, il faut le dire aussi, Nice n'a pas fait un mauvais match. Les milieux étaient quand même solides, j'ai horreur de les dire parce que tout le monde les dit en ce moment, c'est au niveau et Saliba qui ont vraiment amené quelque chose de positif. Et pas oublier aussi Ronny Lopez, c'est lui qui marque les buts. Mais au-delà de ça, c'est un joueur que je le sens, il est presque au niveau de quand il était à Monaco. Il est vraiment les Portugais en train d'évoluer de façon positive. Donc c'était pas non plus un match facile du côté du PSG. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, Philippe Kean, qui arrive vraiment à faire les jeux comme il faut avec Camara et également Kerrer qui trouve les espaces. Et donc c'est comme ça aussi qu'on arrive au but. Mais je considère qu'il y a toujours des trous dans les défenses parisiennes. Bon,
vous avez tout faux. Vous avez tout faux dans vos analyses, madame, messieurs. Vous savez ce qu'a dit Moïse Kean à la fin du match ? Résultat important pour la confiance.
Avec ça, on va aller loin.
Ouais. C'est pas.
Mais c'est pas faux, parce que tout n'était pas tout est pas à jeter. Mais après, on peut dire aussi les PSG, les pauvres clubs. Neymar n'est pas là.
Le maillot. Parlons du maillot un instant. Ah.
C'est du business, Christian. C'est du business. Non,
pas vous, Christian.
Mais moi, c'est pas maintenant.
Ah, d'accord.
Je pense que vous allez être choqué. Mais oui, c'est du business. À l'époque, il y a un moment où les clubs ont un peu moins d'argent pour faire rentrer les sous dans les caisses.
Mais ils le font tous. Le Barça, ils ont dû avoir un maillot de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel depuis 10 ans.
Alors, on explique. C'est un maillot rose.
C'est un maillot
dégradé.
Voilà, oui, qui est en collaboration avec la célèbre marque du basketteur américain, qu'on ne citera pas.
Et avec les noms des joueurs en
chinois. Après, ce genre de maillot est fait pour vendre aux amateurs.
Oui,
pas
mais l'identité
de football,
du
mais...
club, monsieur.
Non, mais ils vont pas jouer. À Barcelone, ils ne vont pas jouer avec ce maillot. Ils ne vont pas jouer avec ce maillot toutes les semaines. C'est quoi? C'est le troisième ou quatrième maillot, Philippe?
Quatrième
maillot du club. Ils vont le sortir une fois tous les 6 mois. C'est juste du business. Ils ne sont pas là à renier.
J'ai envie de dire, c'est pour faire connaître notre championnat et le PSG. Mais imaginez les gens qui voient ces maillots dans d'autres pays. Certains joueurs sont connus, mais d'autres moins. On ne comprend rien ce qui est écrit dans les maillots.
C'est pas Modes et Travaux ici. On va. Ça existe encore, Modes et Travaux?
Je suis pas sûr. Il y a des patrons pour faire ces maillots foot soi-même.
C'était la mode.
Je pensais que vous alliez dire Glamour, Vogue, Modes et Travaux.
Modes et Travaux. Ce que j'aimais bien, c'est la dernière page. le petit roman photo. La dernière page.
C'est tout petit, j'ai la
nostalgie. Dis-moi, on ouvre le dossier Neymar quand même.
Ouais.
Parce que là, il y a Philippe. Vous qui suivez le Paris Saint-Germain depuis combien de temps?
Vous allez me chercher là-dessus.
Non. Non, parce que semaine après semaine, vous me faites le service après-vente de Neymar.
Ouais.
Bon, enfin là, il y a un problème quand même. Il faut être raisonnable.
Oui. Bah oui, obligé de l'admettre qu'il y a un problème.
Mais on l'avait
senti. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes.
Il y a manifestement un problème.
On l'avait décelé un peu avant vous.
Mais il vous arrive d'être précurseur.
Mais je ne suis pas le seul. Non, franchement.
Non, mais oui, manifestement, il y a un problème parce que on a connu un Neymar pas très, on va dire, adapté au départ au climat parisien, où on se posait la question de savoir s'il était réellement heureux d'être là. Après, on a pu imaginer qu'il y avait peut-être un problème de période, de climat. Là, il est bien, Neymar. Il fait sa campagne de com pour la prolongation. Tout se passe très bien.
Il faut prolonger dans ces conditions.
Pas réussi à emmener le PSG au sommet, mais enfin, il a quand même été un grand acteur du Final Eight jusqu'à la finale. Aujourd'hui, il est là. Il n'y a plus d'affaires avec Cavani. Il n'y a plus de problème.
D'accord.
Il est dans des conditions exceptionnelles.
Ne parlons pas des affaires des vestiaires. Il a loupé trois des
comme vous le dites, et comme vous le dites, on arrive à l'instant T.
Il faut le prolonger.
Et il se blesse.
Il faut le prolonger. Est-ce qu'il faut le prolonger? 29 ans, 4 ans. Parce que
c'est fait,
le problème, Neymar, c'est un excellent footballeur. On est d'accord. C'est pas un athlète. Ce n'est pas un athlète.
Ah bah c'est pas Ronaldo, c'est sûr. Hein.
Mais ce n'est pas un athlète. Et plus il va avancer dans l'âge, plus il va se péter.
Bah oui, en fait, l'histoire avec Neymar, moi je pense qu'au-delà de ça, il peut être un peu puéril. Et puis ça c'est un peu dans son caractère.
Enfin,
c'est
un joueur
qui aime beaucoup.
Il a 29 ans.
C'est pas une question d'âge. Il peut être un enfant dans sa tête.
On peut pas dire qu'il est mal entouré. On nous explique qu'il y a des joueurs qui sont mal entourés, les agents, etc., la famille déconnectée. Il a la famille sur le dos. Il a ses sœurs et il a son père.
C'est plus loin que ça.
Et son fils.
Pour moi, c'est le fait que c'est un joueur qui adore les Joga Bonito. C'est un joueur qui aime dribbler. Mais vous avez des attaquants qui se préservent un petit peu. Non, Neymar, est-ce qu'il excite quand il joue au football? C'est vraiment aller se coller au plus près du défenseur.
Mais c'est pas le sujet, ça.
Mais c'est le sujet.
C'est pas forcément que le sujet.
Quand tu joues, on fait partie.
Une semaine avant Barcelone, un 32e de finale contre le 11e de Ligue 2, tu t'amuses pas à aller provoquer les gars pour aller prendre des coups parce que, comme par hasard, il se blesse deux minutes après avoir pris un énorme tampon.
Donc tu ne le fais pas jouer?
Si, tu le fais jouer, mais
non,
il peut avoir
l'intelligence
de faire des différences sans
jouer.
Être dans
Philippe.
Le dribble et la provocation en permanence.
Ça, tu ne pourras pas le changer, Philippe.
Eh ben, si, il doit changer à 29 ans si c'est un grand joueur. Lionel Messi ne s'expose pas comme ça dans un match qui sert à rien à une semaine d'un grand rendez-vous. Je suis désolé, ça fait partie de la panoplie.
Moi, rapidement, je pense qu'il ne fallait pas qu'il joue mercredi. Il pouvait jouer largement ce soir au parc, sur une pelouse tranquille. Quand tu es sur un match de coupe avec un gros enjeu face à des joueurs de Ligue 2 qui, forcément, vont compenser par le physique, tu prends plus de risques de prendre des coups.
Ça faisait 15 jours
qu'il avait joué 20 minutes. Contre Marseille, il pouvait jouer contre Nice.
20 minutes contre Marseille et 0 minutes contre Nîmes auparavant.
Philippe, après, moi je pense que le vrai problème de Neymar aujourd'hui, d'abord, au-delà du fait qu'il vieillit, que plus tu te blesses derrière, c'est qu'il a un problème de nerfs et d'impulsivité. Il faut qu'il travaille là-dessus parce qu'il se blesse. Il se blesse pourquoi? Parce qu'il veut aller se payer Iago qui lui a mis un tampon.
Et
il faut qu'il.
Non, mais c'est. Son problème, il est là. Son problème, il est là. Son problème,
il est trop impulsif. Il faut vraiment qu'il fasse un travail là-dessus parce que.
C'est pas qu'une victime. Non, je suis. Désolé,
et l'hygiène de vie, vous n'en parlez pas.
Mais bien sûr,
parce que je vais vous dire, quand on parlait de l'hygiène de vie il y a quelques temps à propos de Neymar ou d'autres joueurs, on passait carrément pour des footix. Vous n'y connaissez rien, ils savent ce qu'ils font, ils savent se préparer, ils savent être. C'est exactement ce qui se disait autour de cette
Christian,
table.
Christian, je suis sortie parfois, parce qu'il m'arrive de sortir, et j'ai été en boîte des nuits avec ces joueurs en même temps. J'ai laissé croiser. Non, je les ai croisés, et sincèrement, en boîte des nuits, ils sont limite. On les voit au match, on les voit pas très solo en boîte des nuits. C'était aussi la période où il était avec l'histoire d'hôtel et compagnie.
Ils ont
en fait, non, est-ce qui se passe avec lui?
Ils ont 3 grammes, disons-le.
Les problèmes avec Neymar, c'est tout simplement que ces joueurs, ils parlent beaucoup, ils s'expriment d'une façon qu'ils pourraient très bien s'exprimer au Brésil, mais en France, il faut pas dire j'adore aller m'amuser et je ne changerai pas ça, parce qu'après, quand il s'est fait frapper par des joueurs, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se disent, bah voilà, c'est ton hygiène de vie.
Mais ce n'est pas qu'il ne faut pas dire j'adore m'amuser, à un moment
mais
donné,
ils n'ont pas une mauvaise hygiène de vie, pas plus que ça.
Mais tu rigoles ou quoi? Il s'agit de ne pas aller s'amuser.
Ok, au Brésil, mais là récemment.
Pas parfait non plus,
mais on ne parle pas d'il y a 2 ans, on parle de maintenant. Vous savez ce qui change par rapport au Barça? Vous savez ce qui change par rapport au Barça? C'est qu'au Barça, il était encadré par deux joueurs.
Mais non, c'est qui dit
Suárez et par Messi. Et Suárez et Messi, ils vont aller. C'est bagarré et il n'aura pas des coups, Neymar. Tandis qu'au PSG, qui c'est qui va aller défendre Neymar?
Non, mais attends,
personne,
il
s'en prend tous les coups.
Attends, on va pas pleurer. Il est venu pourquoi au Paris Saint-Germain? Pour justement s'affranchir de Messi
et
parce qu'il voulait être la star.
Et donc ça revient à votre question. Non, il ne faut pas peut-être qu'il reste au PSG parce que les clubs, ça ne correspond pas.
La différence aujourd'hui, c'est que Neymar, il a 4 ans de plus. 4 ans de plus au haut niveau, tu dois avoir une hygiène de vie irréprochable. On se fiche un petit peu de la tronche de Ronaldo qui montre ses abdos, etc. Mais Ronaldo, c'est l'exemple même de ça, du professionnalisme. Alors sans être le Ronaldo qui soupèse tout, etc., etc., Neymar aujourd'hui il doit se poser des questions. Il a 29 ans, s'il continue comme ça à aimer sortir, etc., etc., le sommeil, la récupération au niveau des techniques.
Mais non, on l'a pris, mais non, il est comme ça, non, tu vas pas changer un joueur là-bas.
Alors du coup tu dis pas que tu veux être Ballon d'Or, tu dis pas que tu veux être à la table
d'accord.
De Messi et de Ronaldo,
ça,
parce que comme ça tu n'y arriveras jamais.
Enfin, c'est impossible. Un petit rappel en chiffres. Neymar, 3 des 6 huitièmes de finale avec le PSG, 3 seulement, 103 matchs sur 191 et 83 buts. Donc plus de matchs
il a joué 2 saisons finalement au PSG, donc il en doit encore 2.
On tourne une page de publicité à 19h45 et puis on va parler de Mbappé. Alors là, c'est un autre dossier encore, préféré à Lionel Messi. A tout de suite.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Le dernier quart d'heure d'On fait le match avec la voix ensoleillée et très dynamique de Cindy Colmenares, Florian Gazan, multithématique, Baptiste Després, Figaro et Philippe Sansfourche. RTL, il nous reste un quart d'heure.
On ne peut pas rappeler quelque chose sur Neymar juste avant.
Après. Okay. Il nous faut parler de Mbappé, il nous faut parler de Domenech, il nous faut parler de Comboiré, il nous faut parler des tirs au but. Version réduite, mais avec la question spéciale Ligue 2, comme chaque samedi soir, j'espère que vous avez révisé. Il nous faut parler du direct également. Reims, Lens, Dimitri Rablot.
Écoutez, on est dans le temps additionnel. 1-0 pour le Stade de Reims. À signaler que les Lensois ont raté un pénalty il y a une minute. minutes par Kakuta qui s'est un petit peu penché le corps en arrière, le ballon qui est passé au-dessus. 1-0 pour Reims, il reste allez, 40 secondes à jouer dans le temps. Ah bah même pas, c'est la mi-temps, Christian. 1-0 pour Reims ici face à Reims.
Merci Dimitri. Il nous faut parler également de la Ligue 2 avec Baptiste Durieux.
25e journée, c'est la mi-temps également. 0-0 sur presque toutes les pelouses. Seulement Dunkerque qui a inscrit un but donc, et qui mène 1-0 face à Nancy. Et 3, le leader qui mène 1-0 face à Rodez. 0-0 donc sur les autres pelouses. Caen, Niort, Châteauroux, Le Havre, Clermont-Chambly, Grenoble, Amiens, Pau, Paris FC.
Et cet après-midi, au Serre et Guingamp, on fait match nul, un but partout. Les messages, les réseaux sociaux, le compte @RTLFootBaptiste.
Sur le Paris Saint-Germain d'abord, message de Victor. On termine les matchs de Ligue 1 éreintés, sur le canapé. C'est terrible comme sensation. En apnée pendant 50 minutes. Message de Simon qui fait un constat terrible. On est la moins bonne équipe du top 4 et de très loin. C'est absolument indigent ce qu'on propose depuis de très nombreuses semaines. On se fait balader par n'importe quelle équipe de Ligue 1 un peu sérieuse. Et puis message de Paul aussi sur Neymar. Gros débat. Maradona est aux substances illicites, ce que Neymar est aux blessures. Ça n'a jamais empêché Maradona d'entrer dans la légende. Il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est Neymar dans toute sa splendeur, pour le meilleur et pour le pire.
Non mais on oublie les traumatismes qu'il a souffert en 2014, quand il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde de Neymar parce qu'on lui avait donné un coup. Et là, ce n'est pas lui qui allait les chercher au dos. Et un médecin lui a dit, un peu plus à gauche ou à droite, je ne sais plus, à 2 cm, tu ne pouvais plus marcher. Ça aussi, ça laisse des traces. Je ne pense pas que ce soit un joueur qui va forcément non plus chercher tous les temps les coups. Il s'en prend aussi. Et c'est comme ça, c'est son jeu qui fait ça.
Une Française d'origine vénézuélienne qui défend un Brésilien. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais là...
Oui, j'aurais dû défendre plus c'est l'Argentine. Là, je vais me rattraper avec Messi.
C'est Après, c'est très très dur de parler du football vénézuélien. Personnellement, autant la Ligue 2, là, je maîtrise.
Nos sous-21, ils sont finalistes aux Coupes du Monde, hein, monsieur.
Oui, bon, les amis. Le sondage, on va garder vraiment deux questions sur le sondage réalisé cette semaine, le sondage Odoxa pour RTL et Winamax, avec une préférence entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. On s'est fait incendier sur les réseaux sociaux. Pourquoi les opposer ? Vous foutez la merde, etc. Mais non, mais simplement, si Messi vient parce que Neymar le veut, en principe, il ne doit pas y avoir de place pour Mbappé.
Ça te paraît compliqué d'avoir fromage et dessert.
Mais sauf que...
C'est surtout que Neymar, c'est quasiment fait. C'est plus qu'une question de signature, la prolongation.
Ça donc... demande peut-être réflexion de la part des dirigeants, maintenant.
Je crois que c'est trop tard, on ne peut pas gommer. Hein.
Et donc, ça veut dire derrière qu'il y a un choix à faire. Le choix, il est dans la tête et dans les doigts de Kylian Mbappé. C'est lui qui décidera s'il veut prolonger ou pas. Mais s'il ne prolonge pas, il est évident que l'option numéro 1 du PSG, c'est Lionel Messi.
Pour la saison prochaine, si le PSG devait faire un choix entre ces deux possibilité. Préfériez-vous Messi au PSG ou Kylian Mbappé au PSG ? Pour les Français, pas forcément tous amateurs de foot, mais qui vont acheter un maillot, qui regardent de temps en temps un match et qui suivent la Coupe du Monde bon an mal an. Pour les Français, 73% des Français souhaitent que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Ce qui veut dire donc que, d'abord, il y en a 3% qui ne se prononcent pas, 24% qu'ils recrutent Lionel Messi. Ça, c'est pour les Français. Pour les amateurs de foot, je préfère, moi, les cibler sur les amateurs de football dans On fait le match, 72%, donc 1%. Donc, c'est le même résultat.
Pareil, hein.
72% pour Mbappé et 27% pour Messi. Seulement 1% ne se prononce pas. C'est
le Made in France, le triomphe du Made in France.
Plébiscite pour Kylian Mbappé.
C'est logique.
Mais parce qu'il est rentré déjà, Kylian Mbappé, aux yeux des auditeurs qui ne suivent pas le football ou les autres, il est rentré dans le cœur de tous les Français avec la Coupe du Monde. Depuis quelques années au Paris Saint-Germain, il excelle quand même. Et puis derrière, il y a une question sportive qui se pose. Est-ce que vous gardez un jeune de 22 ans ou est-ce que vous prenez quelqu'un qui a bientôt 35
ans ? C'est logique.
Donc honnêtement, on comprend le résultat.
Oui, non, mais c'est absolument logique. Mbappé, joueur français, joueur de région parisienne, donc c'est tout à fait logique de vouloir qu'il continue au Paris Saint-Germain. C'est l'avenir, il incarne l'avenir. Messi, tout Messi qu'il est, il incarne quand même maintenant plus le passé que.
Voilà.
Et puis surtout, économiquement parlant, vous vous rendez compte, prenez Messi.
Ne parlons pas grosso
modo. Non, mais ça joue quand même.
Je crois que c'est vraiment
oublions les sous pour l'instant.
C'est un cri du cœur, ce sondage. Et moi, je pouvais pressentir que. Justement, par le biais de l'âge, il y a quand même un petit avantage pour Mbappé, mais je ne pensais pas à ce point. On parle quand même de Lionel Messi.
Oui, mais là, c'est l'héritier
qui est peut-être le plus grand joueur de l'histoire, 6 ballons d'or en Ligue 1. Enfin, vous imaginez, ça dépasse tout. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement Zlatan Ibrahimovic, Neymar, mais là, on parle de Lionel Messi. Et que les Français et les amateurs de foot, plus précisément, et exactement le même prisme, le même regard, ça en dit beaucoup quand même sur la cote d'amour autour de ce joueur. Nous, on le taille et machin parce qu'il a fait une roulette de trop, parce qu'il ne va pas toujours mettre le but. Mais dans le cœur des Français, aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est énormissime ce qui se passe. Il y a une vraie relation d'amour. Et il y a aussi, je pense, la volonté de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est la pépite du foot français. Il est champion du monde et il est chez nous. Il est en Ligue 1, il est dans notre championnat.
Et ça, c'est
fermons les frontières.
Bon. Non, la différence avec Messi, c'est que Messi n'a pas gagné une Coupe du Monde. Mbappé a gagné la Coupe du Monde. Tu parles, tu fais la comparative entre Messi et Mbappé.
Oui, enfin, d'accord, mais Mbappé. Messi a gagné des Ligues des Champions que Mbappé n'a pas gagné. Bon,
qui est Mbappé? Mbappé, c'est l'héritier de Pelé. Pelé l'a choisi comme c'est lui qui ressemblerait plus à lui ou qui prendrait. Voilà, c'est tout ça.
Mais c'est un joueur.
Ils ont la même manche, moi aussi.
Mais non, mais c'est un énorme joueur, mais c'est pas les mêmes âges.
Ça vous excite pas de voir jouer Messi et Neymar en même
mais
temps?
Mais ce n'est plus une question d'excitation.
On les a vus à Barça.
Mais au PSG. Vous avez vu la Ligue de France Football, Messi est avec le maillot du Paris Saint-Germain.
Là, je vous comprends pas.
Christian, vous posez la question, si Mbappé décide dans 3 semaines de dire, moi, c'est terminé avec le Paris Saint-Germain, je pars au mois de juin, ça excitera tout le monde.
C'est un bon plan B.
Dans quelques mois, c'est certain, c'est certain.
Dites-moi, les capacités du Paris Saint-Germain à remporter la Ligue des Champions. Alors, je dois dire qu'à l'aune du résultat de ce soir, évidemment, le sondage a été fait un peu avant, ça risque de baisser. Pour les Français, 67% disent non. Pour les amateurs de foot, donc un peu plus spécialisés, les suiveurs, 56% disent non. Et je dois dire qu'on avait posé la même question, en tout cas, Odoxa avait posé la même question pour RTL en 2018. Et là, il y avait eu 76% des amateurs de foot qui voyaient le PSG remporter la Ligue des Champions. Chute libre.
Ouais.
Chute libre.
Bah, ils sont quand même finalistes. Bah, hein, mais en fait,
le début de la saison, c'est pas brillant. Mais je crois que c'est surtout, à mon avis, pour aucun club, il y aurait un plébiscite parce qu'il y a trop d'inconstance, d'insécurité dans le résultat.
Le Bayern,
on voit bien.
Le Bayern, quand même, c'est quand même un cran au-dessus.
Le Bayern, effectivement, reste le principal favori à sa succession. Mais on voit bien des clubs aujourd'hui. Vous avez Manchester City qui a retrouvé. Mais Manchester City, il y a 2 mois, il ne mettait pas un pied devant l'autre. C'est l'inverse avec Liverpool. Vous voyez la Juve, le Real, le Barça, tout ça. C'est un coup, il y a un bon match. Le coup d'après, ce n'est pas un bon match. Bon, c'est encore une saison particulière. Donc, il n'y a pas de favori.
Et en parlant de Ligue des Champions, il va falloir que le PSG se qualifie pour la Ligue des Champions.
Bah, facile. Hein.
Facile?
Bah, contre les Barça, là ?
Non, en championnat de France, là.
Ah
oui, non, vous les voyez jouer à 17h le samedi, Cindy Colmenares ?
Et pourquoi pas ?
Bon, ce qui va les sauver peut-être.
Vous avez vu le Barça en couple, là, contre Séville, cette semaine ?
Ah, je vous provoque un peu.
C'est terrible.
Ce qui va peut-être les sauver, c'est l'information de Noël Le Graët, qui était l'invité d'On fait le match, et nous dire qu'avec la nouvelle formule UEFA, pour couper court aux élans de ligue fermée, eh bien, il y aura peut-être
4,
voire 5, en tout cas 4 minimum, clubs français en Ligue des Champions.
Imaginez, ça ferait 4 clubs français qui termineraient dernier de la poule.
T'es horrible, mais c'était les membres.
Bon, ce serait formidable.
Raymond Domenech. Raymond Domenech. Match, c'est par ici la sortie, monsieur Domenech. Quitta en est à son, je crois, 16e.
18e, non ?
18e. Voilà,
16e entraîneur, sans compter les intérims.
Oui, hein, Patrick Collot.
On doit faire 18, etc. Là, pour le coup. C'était une opération survie pour Domenech, qui n'a pas gagné un match, mais est-ce que ce n'est pas un peu court quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas une politique assez étrange de la part de Valdemar Quitta ?
Après, Christian, est-ce qu'on est surpris avec la gestion de Valdemar Quitta ? Au final, il a pris Domenech pourquoi ? Pour faire le buzz, pour faire du bruit, parce qu'il n'a aucun projet aujourd'hui, Valdemar Quitta, avec Nantes. Il ne voit que court terme, il voit des noms. Là aujourd'hui, il prend qui ? Il prend Antoine Comboiré, qui est soi-disant le pompier de service du football français. Il a fini sur 10 matchs, 10 défaites de suite avec Toulouse, avec Dijon, c'était catastrophique. C'est quelqu'un qui ne suit plus le football comme ça à
100%. Il a sauvé Valenciennes et
d'accord,
Dijon
il y a
précisément.
Quelques années, mais ouais. sur les derniers,
il a mis une tête aussi contre le Real.
Oui, non, mais ça, sur le côté joueur, on est d'accord.
Casque d'or.
Mais sur le côté entraîneur,
Ce qui m'interpelle, c'est qu'il a refusé Nantes à 2 reprises cette saison. Et que là, la troisième proposition, il est
peut-être
parce qu'il
besoin
aime,
de bosser.
Il aime les clubs. Il aime les clubs. Je pense
c'est surtout qu'il a énormément de besoin de travailler. Il est dans la même situation que Nantes aujourd'hui.
Vous savez qu'est-ce qui les motive, je vais vous dire. C'est que si jamais Nantes descend en Ligue 2, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde dira c'est la faute à Domenech. Et donc voilà, il n'y avait pas vraiment beaucoup un risque très énorme. C'était juste empocher aussi.
La grande erreur de Domenech, quand il a accepté ce challenge après 23 ans sans avoir entraîné en Ligue 1, il les voyait les matchs de Nantes et il savait très bien les carences qu'il y avait dans cette équipe. Faut pas oublier quand même que c'est une équipe qui a gagné que 3 matchs cette saison avec ou sans Domenech. Donc il fallait recruter. fallait recruter au mercato, il fallait prendre au moins un défenseur et un milieu de terrain, et puis ce gardien.
Domenech n'a pas voulu recruter et il a laissé partir un joueur.
C'est là qu'il a fait une erreur gravissime, parce qu'aujourd'hui, Nantes, objectivement, d'un point de vue de l'effectif de la force de frappe, Nantes est une équipe qui a le profil de la descente en Ligue 2.
Est-ce qu'il faut un
qui
vrai...
manque d'âme, surtout.
Et il faut
qui
un vrai fort en gueule, là, pour à la tête du FC Nantes, c'est le cas de Comboiré. Ouais, et ce n'est pas, également mettre de côté ses qualités, malgré tout, d'entraîneur, mais est-ce que ça va passer? Parce qu'à un moment donné, c'est l'effectif aussi qui coince.
Mais non, mais il n'y a pas. L'équipe, franchement, l'effectif, il est terrible de Nantes.
Il y a trois ans, Tataru Salou dans les buts, Diego Carlos en défense, Rongier au milieu de terrain, Salah devant. Ils ont été remplacés par qui, ces joueurs-là?
Le problème, c'est que Nantes, chaque année. En fait, c'est un canari, mais qui se déplume. Chaque saison, on enlève des petites plumes, et là, il est à poil, le canari. Donc, vous pouvez mettre qui vous voulez. Vous pouvez mettre Pep Guardiola avec cet effectif-là. Bon, peut-être qu'il gagnera un match, c'est Pep. Mais ça ira pas plus loin. Donc, rendez-vous le 4 avril. Il y aura eu 7 matchs. On verra si Comboiré battra le record.
Je pense pas que ce soit juste une question d'effectif, mais d'effectif aussi démotivé. Aussi. Mais tu sais, parfois, avec des joueurs nuls, il y en a qui ont réussi à faire des choses très fortes. J'exagère, ils sont nuls. Là, ce qui se passe, c'est aussi une question de mentalité. Quand il y a des rumeurs comme quoi les joueurs, ils arrivent tard aux entraînements, des choses comme ça, tout ça, c'est très symptomatique. Des joueurs qui sont complètement démotivés, qui vont pas vraiment au charbon. Et au fait, ce qui leur manque, ce n'est pas de la rigueur ou de la mollesse. Il leur manque peut-être un peu d'âme, d'inspiration.
C'est terminé, c'est terminé ou presque. Un seul tir au but. Émission exceptionnelle. Donc, un seul tir au but. Et ce tir au but, vous le savez, il est pour vous faire aimer la Ligue 2, passionner pour la Ligue 2. Je dois dire qu'il y a certains matchs de Ligue 2 qui valent assez largement, du point de vue qualitatif, certains matchs de Ligue 1.
C'est vrai.
Donc, tiens, ça tombe bien. Noël Le Graët était l'invité d'Orphée Match, ancien président de Guingamp, notamment. Ça va être une question un peu people. Voilà. On n'a pas parlé de 4-4-2, de meilleur buteur. Tout le monde s'est planté lors des derniers On fait le match sur la question Ligue 2.
Là, j'avais révisé. Hein.
Quel est le nom du président de l'En Avant Guingamp?
Oh merde.
Le nom du
président des plats?
Non, il n'y est plus.
J'aurais dit des plats, mais.
Le gendre de Noël Le Graët a été viré.
Ah oui, bien sûr.
Alors moi j'ai Loïc Le Gallec, c'est le kiné, parce que j'ai appris aussi le jardinier, parce que je vous connais, Christian, mais là mon impasse c'est les présidents cette semaine.
Alors faites un effort.
Alors attendez, c'est People, on le connaît ?
Frédéric Legrand.
Ah oui, Legrand.
Ah oui.
52 ans, il a été speaker à l'âge de 16 ans, et ce n'est pas Frédéric II de Prussie, hein, de Prusse. Frédéric Delgrosse.
Ah oui. Bah.
C'est pas lui, Frédéric Legrand, c'est pas le même. Hein.
Il vaut mieux pour eux, parce que...
Frédéric Legrand, donc, est le nouveau président, enfin, depuis quelques temps, quand même, de Guingamp. Va falloir réviser.
Mais donnez-nous les thématiques. Je vais apprendre le nom de tous les stades pour la prochaine fois.
Cindy, merci beaucoup. Philippe, merci beaucoup. Derrière les informations de 20h, RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin et vous tous, bien évidemment, avec notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Lyon-Montpellier. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.